Entonnoir, deuxième partie, et nous avons le très grand plaisir de recevoir Romain Slocombe. Romain Slocombe, bonsoir, merci de nous rejoindre.
Bonsoir, c'est un plaisir.
Voilà, et donc vous venez nous présenter votre dernier roman qui s'appelle Dernière station avant l'abattoir. Première station avant l'abattoir, ça commence bien. Paru il y a quelques jours au Seuil. Avant de parler de ce livre, je vais résumer votre parcours, vraiment résumé en quelques lignes. Vous m'interrompez si je dis des bêtises. Beaucoup de cordes à votre arc, on pourrait dire artiste, dessinateur. Vos premières œuvres sont pour Métal Hurlant, Galaxy, Fiction. Il y a eu une période bande dessinée. Et puis, il y a eu une première collaboration avec un auteur de polar, Marc Villard. Et puis, sont venus des romans pour la jeunesse. 4 romans ayant pour personnage principal George Woodbrook. Je prononce très mal,
pardon. Gilbert Woodbrook.
Ça continue. Là, je crois qu'on va se quitter, là. Pendant ce temps-là, beaucoup de travail de photographie et de travail artistique. Il y a 2 ans, j'espère ne pas me tromper, monsieur le commandant. Ça va, ça?
Oui, oui. Il est sorti à la rentrée littéraire de 2011.
Voilà. Et on arrive à Première station avant l'abattoir, qui vient donc de sortir chez Seuil Policier. Et je crois qu'une des premières choses à expliquer à nos auditeurs, c'est le titre, donc la période à laquelle se passe ce roman, et puis l'événement historique.
Alors, il se passe en 1922, au printemps 1922. L'expression elle-même, comme l'explique un des personnages, a été trouvée par moi en l'occurrence, vu que je suis l'auteur du livre, chez Céline. C'est une expression qu'il utilise, c'est pas un titre d'un de ses livres. Et en tout cas, ça convient très bien à la situation, parce que l'abattoir qui se profile dans le lointain, c'est la Seconde Guerre mondiale, alors qu'on sort à peine de la Première. Et c'est aussi l'abattoir que Staline réserve à ses anciens compagnons d'armes et à des millions de gens. C'est aussi la montée du fascisme et du nazisme, puisqu'en 1922, Benito Mussolini, qui a la quarantaine, est en passe de devenir Premier ministre, parce que le parti fasciste italien, dont il est le Duce, a atteint 250 000 membres, fait régner un peu la terreur. Les bagarres sont constantes entre communistes et fascistes. Et l'événement en question qui se déroule à Gênes en Italie au printemps 1922, c'est la conférence internationale de Gênes, une conférence économique et aussi politique, qui est la première grande conférence rassemblant tous les pays ayant participé à la Grande Guerre, celle de 14, les vainqueurs comme les vaincus, et en particulier, et là c'est la grande nouveauté, en Europe de l'Ouest, débarquent les diplomates bolcheviques, et ceux-là on ne les avait encore jamais vus.
Oui, et apparemment, donc en plus, c'est une histoire très particulière parce qu'ils vont être logés dans un très bel hôtel un petit peu à l'extérieur. Alors maintenant qu'on a expliqué le titre, on va peut-être expliquer aussi la genèse de ce roman, puisque en fait, il me semble que cette histoire, vous le dites d'ailleurs à la fin, vous a été inspirée par votre grand-père, Georges Slocombe, qui a été lui-même présent à cette conférence, ainsi que tous les autres personnages, parce que Georges Slocombe, en fait, vous l'avez transformé en Ralph Exeter,
oui,
journaliste, espion, un peu de temps en temps, espion. Oui. Voilà, donc comment petit à petit l'idée a cheminé de certainement des souvenirs, des lettres, des documents qui sortaient de votre grand-père, et cette histoire qui, comme on va le voir, est à la fois un roman d'aventure, d'espionnage, roman noir, fresque historique.
Eh bien, mon grand-père était un peu la grande figure de mon enfance, c'est-à-dire que il était écrivain, auteur de livres historiques, journaliste. Il avait pendant la Seconde Guerre mondiale, sous le Blitz, il parlait sur Radio Londres, enfin sur la BBC. C'est aussi un homme assez impressionnant, très gentil, mais aussi il était grand, il avait une grande barbe rousse, et cette barbe, en fait, il se l'était laissé pousser tout jeune, alors qu'il était jeune journaliste. correspondant à Paris du Daily Herald, qui était lui un journal très très à gauche, le journal des syndicats britanniques, pro révolution russe, etc. Et mon grand-père avait été gauchiste dans sa jeunesse, puisqu'il avait écrit ça m'a fait très plaisir d'avoir trouvé ça parmi ses œuvres, une petite plaquette de poésie dont je parle d'ailleurs dans le roman, qui s'appelait Gaucherie, enfin une sorte de petite plaisanterie sur de modeste un peu sur la gaucherie de ses premiers essais poétiques, mais aussi que c'était des poèmes de gauche. Et je pensais que comme beaucoup de gens, il avait eu sa jeunesse gauchiste et puis qu'après il s'était un petit peu rangé et qu'il était devenu peut-être pas un conservateur, mais enfin bon, quelqu'un de neutre. Et j'étais très très étonné un jour que je surfais sur Internet de voir son nom lié en fait au premier réseau d'espionnage communiste en Grande-Bretagne, un réseau qui était surveillé par la police mais qui n'est jamais tombé, qui n'est pas très très connu. Et donc son poste de correspondant à Paris du Daily Herald lui permettait d'envoyer des informations à Londres, puisqu'il n'y avait pas de représentation diplomatique soviétique à Paris à cette époque-là. Ça s'est arrivé plus tard en 1924, et donc il fallait passer par Londres, et toutes les informations d'ailleurs transitaient de manière très curieuse, cachées dans des colis de nourriture, etc. Et il recevait de l'argent pour corrompre, apparemment, d'après les recherches d'historiens britanniques sur le sujet, il recevait à cette époque $1,000 US par mois de son chef à Londres, qui était le chef du service étranger du Daily Herald, William Norman Ewer, que j'appelle Evans dans le livre. Et je me suis dit que finalement, mon grand-père, peut-être que cet argent, après tout, comme il était très bon journaliste, il avait un grand sens, il est très connu dans l'entre-deux-guerres justement comme étant un très très avisé commentateur politique. Peut-être qu'il n'avait pas besoin de corrompre des gens et qu'il envoyait les informations comme ça, écrites par lui-même à Moscou via Londres. Et donc, comme c'était aussi un homme qui était très séduisant, qui avait des maîtresses, c'était le Montparnasse des années folles, hein, durant les années 20, je me suis dit peut-être que les maîtresses lui coûtaient un peu d'argent et que cet argent, finalement, l'argent soviétique, il le dépensait peut-être dans les bars de Montparnasse. Donc c'est un petit peu ça l'idée.
On commence déjà à voir la trame romanesque.
De base au roman.
Oui. Et donc, si on commence un petit peu l'histoire, donc on est dans ces années un petit peu que vous venez de décrire, etc. Comme votre grand-père, je crois, donc on lui demande d'aller assister à la conférence de Londres. Et là, première scène absolument magique, il prend le train, enfin, après quelques temps, il prend le train et il va rencontrer un personnage assez particulier, un grand journaliste assez athlétique qui s'appelle Holloway et qui est en fait Hemingway, qui lui-même a participé à la conférence de Gênes de 1922.
Tout à fait. Et ce départ à Gênes, mon grand-père le raconte dans ses mémoires. Il a écrit assez jeune ses mémoires puisqu'il les a, ils ont été publiés en 1936 quand il avait à peine 40 ans. Et dans ses mémoires, ça m'avait toujours fasciné justement ce passage où il dit, où il est vraiment dans le train pour Gênes, quelqu'un toque à la porte du compartiment et c'est un journaliste américain qui connaissait vaguement Ernest Hemingway. Et mon grand-père précise même que pendant le voyage, ils ont parlé de l'Italie et que Hemingway lui a raconté sa guerre justement dans le service ambulancier de la Croix-Rouge américaine, où il avait d'ailleurs été gravement blessé. Et donc je me suis servi de cette scène tout à fait authentique pour lancer un peu mon histoire et pimenter le voyage en train de mon journaliste.
Alors il y aura d'autres petits piments puisque les aventures vont commencer par Ralph Exeter et son ami, puis on arrive, il s'installe à Gênes et là Exeter n'a de cesse que d'aller rejoindre la délégation soviétique qui donc s'est installé dans un superbe hôtel à Santa Margherita Ligure, que beaucoup de gens, beaucoup de nos auditeurs certainement connaissent cet endroit parce qu'il n'est pas si loin d'ici. Et on va demander à ce journaliste de dénicher une taupe. Et là, tout s'emballe. Et là, on part vraiment dans un roman d'espionnage avec les codes. Vous amusez beaucoup. Vous amusez beaucoup avec les codes du roman d'espionnage, là.
Oui, parce que j'ai voulu rendre hommage à un certain type de littérature, notamment Graham Greene, bon, qui est connu en France, Eric Ambler, qui l'est moins, mais qui était le grand écrivain d'espionnage anglais de la fin des années 30, et qui plus tard aussi après la guerre, mais je m'intéressais surtout et je voulais rendre hommage à ses romans des années 30. Et si on veut trouver un équivalent cinématographique. On pourrait penser au premier film de Hitchcock en noir et blanc, comme les 39 marches ou Une femme disparaît, qui se passe aussi dans un train d'ailleurs. Et ce côté très très romanesque, avec aussi des jeunes femmes un peu mystérieuses, puis des gens qui disparaissent, et puis des rencontres bizarres dans le train, et puis des soirées à l'opéra, et cet extraordinaire hôtel de Santa Margherita qui était surveillé par des cordons de carabiniers, et puis la police italienne, et puis les communistes italiens venus pour protéger la délégation soviétique contre d'éventuels lancers de bombes des Russes blancs qui étaient là aussi à l'époque à l'affût pour essayer d'assassiner des politiciens soviétiques. Donc c'est une situation très très tendue, parce que on a aussi les fascistes qui créent des incidents en ville, notamment pendant la fameuse représentation à l'Opéra de Gênes. Et puis il y a aussi un côté romanesque, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes femmes mystérieuses, et en particulier Exeter est à la recherche d'une jeune américaine qu'il a rencontrée dans le train sans pouvoir lui parler. Il ne sait même pas comment elle s'appelle, et il va passer toute la première partie de son séjour à essayer de la trouver.
Et la deuxième partie de son séjour à essayer de s'en échapper d'une certaine manière, puisque ça ne va pas lui amener que des félicités.
Oui, il va avoir des ennuis.
Avoir des ennuis.
Oui, et puis aussi sa grosse angoisse, c'est de rencontrer la police soviétique, parce que il se doute, et d'ailleurs on l'a prévenu que le GPU serait là aussi parmi les protecteurs des diplomates soviétiques, et peut-être qu'on va lui poser certaines questions vu qu'il a un peu inventé une source au sein du gouvernement français qui en fait n'existe pas, vu que c'est lui-même qui écrit les informations, et donc il a toujours une sorte de cauchemar, c'est qu'un jour il va se retrouver dans une cave en face d'un officier soviétique qui va lui braquer un pistolet sur le front.
Ce qui pourrait bien lui arriver à quelques moments, mais on n'en dévoilera pas plus. Ce qui est, vous venez de citer des scènes qui pour moi sont des scènes clés, comme la scène de l'opéra, la scène d'ouverture à Gênes. Il y a cette fameuse scène, enfin cette longue, ce long voyage dans le train, même au départ avec la brume. On a l'impression que vous êtes amusé. Je me demande si vous n'avez pas avant dessiner des tableaux, enfin peint des tableaux. Vous arrivez à décrire ces scènes comme des photos d'époque ou comme des peintures que vous dessineriez en même temps que vous écriviez.
Ça me fait très plaisir que vous disiez ça. Il faut dire que vous avez un peu évoqué mon passé au début. C'est vrai que j'étais illustrateur, puis photographe, donc j'ai quand même un certain sens visuel et un sens de la composition. Et j'essaie de créer justement des atmosphères un peu marquantes. Après, c'est aussi un travail technique d'écriture, c'est-à-dire que le romancier doit pouvoir... c'est un de mes buts, en tout cas créer dans l'esprit du lecteur cette même scène que moi je vois. Il faut que le lecteur, si possible, voit la même en fait. Et pour ça, il faut avoir effectivement un sens des atmosphères, un sens aussi de la description. Et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé, par exemple, sur des vieilles cartes postales de Gênes. C'est-à-dire que plutôt que d'aller là-bas et voir le Gênes actuel envahi de voitures et de touristes, j'ai préféré m'inspirer de vieilles cartes, de vieilles photographies, etc. De vieux films aussi, parce que Gênes, quelquefois on voit Gênes dans des films italiens ou franco-italiens de l'après-guerre, par exemple, comme Au-delà des grilles de Julien Duvivier ou La traite des blanches de Luigi Comencini. Et Gênes, finalement, j'avais l'impression de la connaître avec ses ruelles étroites, ses grands phares, puis son extraordinaire gare maritime avec les paquebots amarrés, et puis tous ces grands hôtels, et puis d'autres hôtels moins luxueux, parce que mes personnages de journalistes, ils ont pas tant d'argent que ça, donc eux, ils descendent dans des hôtels de seconde catégorie, où d'ailleurs arrive un incident très drôle, mais qui est vraiment arrivé à Hemingway, c'est-à-dire que le chauffe-eau de sa salle de bain a explosé, en fait.
Oui, puisqu'on va retrouver donc quand même beaucoup de scènes tirées d'événements réels, mais dans une trame romanesque. Alors, je voudrais... En plus de ce travail pictural que je trouve magnifique, il y a aussi un travail et une recherche importante sur le vocabulaire et la façon dont on parlait à l'époque, que ce soit dans les dialogues des personnages, mais y compris dans la narration. Donc ça aussi, je suppose que ça a été une attention particulière d'évoquer l'évocation par les mots.
Oui, parce que j'ai toujours voulu, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné quand j'étais gamin au lycée. J'avais lu un livre qui s'appelait « À la manière d'eux » par Rebou et Muller, et ces deux écrivains faisaient des parodies d'auteurs connus de l'époque, comme Flaubert ou Paul Déroulède. Et ça m'épatait qu'un écrivain soit capable, finalement, de prendre le style d'un autre écrivain. J'aime bien, je travaille beaucoup sur le passé, j'aime bien que mes livres aient l'air d'un peu de surgir du passé, et que ce soit des documents de cette époque. Pour Monsieur le Commandant, c'était une lettre censée avoir été écrite par un académicien en 1942, donc il fallait un style particulièrement classique. Et là, j'ai relu les traductions françaises de Graham Greene ou d'Eric Ambler, qui sont des très belles traductions de l'époque. Et donc, je me suis cantonné en fait à ce type assez classique de narration, ce genre de vocabulaire, en essayant d'éviter tout mot qui sonnerait trop contemporain. Et puis quant au dialogue, je me suis inspiré de textes de l'époque. Par exemple, il y a une scène vers la fin où apparaît Mussolini, et une scène assez longue où il a un personnage d'ailleurs assez incroyable. Et pour ça, je me suis inspiré de textes de ses propres mémoires, parce qu'il a écrit des mémoires à l'époque de la République de Salo, peu avant la fin de la guerre. Et dedans, il parle justement de la splendeur des défilés fascistes, avec le martèlement des reins, des bottes des légionnaires, etc. Et puis il y a une scène aussi assez drôle où il commet une agression sexuelle sur une artiste, et cette scène, qui a l'air totalement inventée, est en fait totalement réelle, puisque il avait comme ça sauté sur la sculptrice anglo-américaine Claire Sheridan, qui était une cousine de Winston Churchill, et elle l'a raconté à sa petite nièce dans une biographie. Et donc j'avais les expressions employées même par Mussolini pendant sa ridicule tentative de viol.
Alors je voudrais quand même préciser, parce que on a l'impression de citer beaucoup beaucoup comme ça d'anecdotes vraies, et effectivement c'est un roman avec une trame historique totalement réelle, un contexte vraiment très comment dire, avec l'histoire vraie, mais on a quand même 400 pages d'un roman absolument fantastique, avec des personnages dont les noms sont réels ou que vous avez légèrement transformés, mais on est quand même plongé dans une trame romanesque qui rend certainement même plus fort certaines idées que vous aimeriez faire passer, comme justement ce que vous nous expliquiez au début du roman, c'est-à-dire ce contexte très noir qui a été peut-être les prémices du pacte germano-soviétique, et aussi tous ces personnages de bolcheviques qui ont un petit peu vécu quelques mois de vie ensoleillée finalement dans cet hôtel, et qui sont rentrés, la plupart étaient assassinés par Staline dans les années 36-37.
Oui. Oui, c'est une sorte de roman quelque part de vacances sur la Riviera, et en même temps ce sont des vacances mais dans un monde très crépusculaire, et j'ai voulu construire une intrigue où petit à petit, il y a, avec beaucoup de suspense évidemment, et de mystère, de placer dans ce contexte des personnages qui étaient pour la plupart, ou quelquefois qui sont fictifs, ou alors qui peut-être n'y étaient pas, comme le fameux agent secret Sidney Reilly. Mais tous ces gens finalement sont manipulés sans le savoir, c'est une sorte de jeu de dupes, et derrière il y a ce profil, une ombre menaçante, l'ombre rouge, pour rendre hommage un peu à ce film de Jean-Louis Comolli des années 80, qui racontait un peu des histoires, justement le drame de ces communistes qui sont en fait utilisés par Staline et qui bientôt vont être rappelés à Moscou pour être assassinés. Et c'est donc cette histoire finalement de manipulation que je voulais créer, et qu'à la fin, parce que je vais pas raconter la fin, mais il y a quand même une assez grosse surprise vers la fin, et que finalement tout mon travail de romancier c'était de créer une intrigue, une manipulation derrière tout ça, et de trouver moi-même qui tirait les ficelles.
Finalement, c'est quand même vous. En 10 secondes, puisqu'il nous reste juste 10 secondes, moi je dirais que c'est une histoire lumineuse dans un contexte bien sombre. Et c'est un roman qui m'a vraiment enchantée. Romain, je vous remercie beaucoup.